Radio J.
Livre au Café des Psaumes. Radio J.
Bonsoir à tous. C'est Livre au Café des Psaumes. Livre au Café des Psaumes où je reçois cette semaine Gérald Tenenbaum pour un livre qui s'appelle Par la racine et qui vient de paraître chez Cohen et Cohen. Alors Gérald Tenenbaum, bonjour. Je voulais rappeler qui vous êtes, professeur à Nancy, chercheur en mathématiques, surtout écrivain, romancier. Et bien sûr, les livres qu'on peut citer de vous, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer. L'affaire Pavelstein, c'était déjà chez Cohen et Cohen. L'ordre des jours, c'était chez Héloïse d'Ormesson. Et puis, d'ailleurs, maintenant, il est sorti en poche, aux éditions de l'Aube. Peau vive, qui était à la Grande Ourse. Et puis, vous avez aussi sorti des livres, des mots et des mathématiques chez Odile Jacob. Et « Reflet des jours mauves », c'est aussi un livre qui était chez Héloïse d'Ormesson. Alors ce livre-là, Par la racine, je dois dire qu'il est tout à fait séduisant pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'on prend grand plaisir à retrouver des tas d'allusions à des éléments critiques, à des éléments de vie juive qui ont accompagné tous ceux qui ont au fond un passé lié au monde yiddish, au monde, je dirais, de l'Europe centrale. Et ce qui nous séduit, je dirais, c'est cette multiplication de références à cet univers que certains disent disparu, alors qu'il est tout le temps en train de reparaître, de ressurgir. En même temps, référence à la musique, comme à la peinture, référence, je dirais, avec des petits clins d'œil au professeur de mathématiques que vous êtes. D'ailleurs, dans chaque roman, on trouve la trace des mathématiques. Alors, bien sûr, vous allez me dire que c'est une trace bien légère. Il y a un tailleur de pierre dans le livre qui taille 2880 marches dans la roche, au bord de la mer, et qui rappelle la planète, et vous l'expliquez, la planète sur laquelle le petit prince de Saint-Exupéry avait pris racine pour découvrir 1440 coucher de soleil, c'est exactement la moitié,
oui.
Et s'extasier devant ces 1440 couchers de soleil dans une seule journée. Et puis, il y a en même temps, bien sûr, ces références à Israël. Et je voudrais commencer par ça, parce que on peut dire votre héros, Samuel, d'une certaine façon, termine son odyssée en allant en Israël. Et je vais en lire juste un petit bout pour faire comprendre le style du livre. Oui. Parce que vous avez un style très particulier et une écriture qui accroche. Un soir, à l'heure du coucher, Jacques s'invite dans la cabine de Luce et Samuel avec une bouteille de Bordeaux et des tartines de foie de morue. Il suffit d'être trois pour former un cercle, on retrouve le mathématicien. La conversation rebondit d'un sujet à l'autre alors que, tout harnaché de nuit, la tempête frappe au hublot. Très belle phrase. Tout harnaché de nuit, une tempête. On voit qu'il y a un travail sur sur les mots qui est très spécifique. Est-ce que vous revenez sur vos phrases et est-ce que ce genre de phrase est le fruit d'un travail conséquent ?
Alors, oui, disons que je travaille énormément la résonance dans les phrases, la multiplicité de sens, et puis la résonance, disons, d'une phrase à l'autre. Le thème de la tempête qui est évoqué ici, il est évoqué déjà dès l'incipit du livre, l'exergue du livre, puisqu'il y a une phrase de Shakespeare qui dit... Dans la tempête, ne sommes-nous pas de l'étoffe dont les songes sont faits ? Et puis le livre s'ouvre sur une réminiscence de la tempête de 1999 qui a été si importante. Et la tempête est également celle qui est au début du livre dans la tête de Samuel, puisqu'il vient de perdre son père et les relations avec son père ont toujours été difficiles. Donc il y a des résonances dans tous les sens. Et effectivement, d'imaginer la tempête harnachée de nuit, c'est-à-dire comme si elle chevauchait la nuit, eh bien, ça montre la violence des sentiments, quoi. Donc, je travaille énormément les résonances, je dirais, oui.
Alors, pour raconter rapidement le contenu du livre, on peut dire que le père donc, de Samuel Villard, comme vous venez de le dire, Baruch Villard, vient de mourir Et Samuel doit passer à l'EHPAD où il a fini sa vie, où il vient de s'éteindre, pour récupérer une boîte en carton avec ce qui reste de la vie du vieil homme. En fait, à la fin de sa vie, le vieil homme lisait, et le choix que vous avez fait des livres qu'il lisait est assez intéressant. Il lisait Asimov et ses robots.
Oui.
Il lisait Carver, l'écrivain américain, et ses égarés. Et il lisait Camus et son étranger. Alors qu'avant, il lisait pas tellement. Et là, maintenant, il s'est centré sur ces lectures-là.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pourquoi vous avez choisi ces trois types de lectures ?
Alors, finalement, ce qu'il y a de commun entre les robots, l'étranger et Carver, ce sont toujours des personnages qui sont apparemment dénués d'émotions. Et lui, ce père, ce Baruch, mettait toute l'affectivité à distance. Et donc, alors que avant, dans sa vie, il lisait que des essais, il s'est mis à lire de la fiction, mais toujours avec des personnages qui sont à l'écart de l'émotion. Il fuyait l'émotion.
Gérald Tenenbaum, là où le fils Samuel donc, a garé sa voiture, dans l'EHPAD, c'est un petit bois de boulot. Et vous écrivez un bois de boulot antichambre funéraire. J'ai adoré cette expression parce que, bien sûr, ça évoque tout ce qui a été dit sur le bois de boulot qu'il y avait à Buchenwald.
À Auschwitz.
À Auschwitz, pardon. Et on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on lit le livre.
Bien sûr, oui.
Quand on a lu des choses sur Auschwitz, bon, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Au fond, vous voulez dire que l'EHPAD, c'était la fin de sa vie,
oui.
Comme au fond, le bois de boulot était la fin de la vie des déportés.
Exactement. Mon choix littéraire, c'est la focalisation interne. C'est-à-dire que j'écris à la troisième personne, mais je suis dans la tête d'une seule personne. Et donc, quand il rentre dans sa voiture, après avoir récupéré cette fameuse boîte en carton, il regarde ce bois de boulot et il se dit finalement depuis la chambre de mon père c'est ce qu'il voyait et donc il voyait ce bois de boulot et ce bois de boulot préfigurait sa propre fin.
Alors la dernière visite à Lunéville, parce que ça, le livre commence en fait par ça, après le chapitre sur la mort,
oui.
C'est la dernière visite à Lunéville. Lunéville, c'est la ville où bien sûr Baruch a passé son existence, mais
oui.
Samuel aussi, comme son enfant, et les trois enfants de Baruch ont été élevés à Lunéville. Et alors là, vous parlez d'enracinement. Alors, il y a une exergue concernant l'enracinement.
Oui.
Le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine, cet enracinement, dit Simone Veil, pas la ministre, la philosophe évidemment,
qui a écrit un livre
qui s'appelle L'enracinement.
Oui, tout à fait.
J'ai été assez étonné de vous voir faire référence à Simone Veil, tout simplement parce que Simone Veil, qui n'aimait pas le gros animal social, considérait l'enracinement presque comme une catholique. Il faut rappeler qu'à la fin de sa vie, elle a voulu se convertir.
Oui,
elle ne s'est pas convertie par solidarité avec les juifs victimes. Mais en même temps, pourquoi est-ce que cette question de l'enracinement... Vous voulez dire que Lunéville, c'est l'enracinement de ces gens et qu'ils se sont enracinés bien que juifs?
Alors,
Que cosmopolite.
Oui, disons qu'ils se sont, ils se sont nidés dans la Lorraine. Mais l'enracinement, c'est plutôt ce que Samuel recherche tout au long de ce livre. C'est-à-dire, il recherche ses propres racines. Bon, évidemment, il y a le titre par la racine. Cette question des racines, y compris des plantes qui vont pousser par la racine, qui poussent vers la terre au lieu de pousser vers le soleil, vers la lumière.
Je savais pas du tout que ça existait. Ça existe, ça ?
Non, ça n'existe pas. Je me suis un jour posé la question toute simple, qu'est-ce qui fait qu'une graine plantée en terre sait dans quel sens il faut pousser ? Et c'est vrai que c'est une question qui a taraudé les botanistes pendant des centaines, voire des milliers d'années. C'est très compliqué. Et finalement, on a trouvé que bon, il y a des petites substances qui permettent à la graine de savoir où est le haut et où est le bas. Et donc, dans ce monde qui va à la renverse, eh bien, on peut imaginer qu'un jour des plantes se mettent à pousser à l'envers, quoi. Voilà.
Alors, il faut venir maintenant à l'essentiel. L'essentiel, c'est la profession de Samuel. profession qui, d'une certaine façon, ne plaît pas tellement à son père.
Hein. Ah non,
c'est
pas
moins du qu'on
tout.
Puisse dire.
Non, non, bien sûr.
Et donc, sa profession, c'est d'écrire des autobiographies pour des morts ou pour des vivants qui veulent l'utiliser pour raconter des choses sur eux qui sont éventuellement fausses. Au fond, des autobiographies imaginaires.
Oui,
et là, une de ses nouvelles clientes qu'il appelle et vers laquelle il va aller, qui est à Troyes, donc Troyes où il y a le centre Rachi, où, où Rachi a été, c'est vers elle qu'il va être amené à aller pour essayer de construire une autobiographie imaginaire. Alors qu'est-ce qu'elle, pourquoi elle veut une autobiographie imaginaire? Parce qu'elle va travailler au YIVO.
Oui.
Alors, il faut que vous expliquiez ce que c'est que le YIVO peut-être.
Oui, le YIVO, c'est le centre des études juives à New York qui rassemble des centaines de milliers de documents sur le génocide et sur la vie des juifs d'Europe centrale.
Alors, elle veut se constituer donc une fausse autobiographie.
Voilà.
Elle voudrait venir avec un certain nombre de documents.
Voilà.
Et alors, elle lui donne une espèce de cahier des charges.
Oui.
Chacun de ses clients lui donne ce cahier des charges.
Oui, tout à fait.
Qui peut être flatteur. C'est l'objectif.
Oui.
Et renvoyer à quelque chose qui peut séduire d'éventuels employeurs, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens se mettent en valeur eux-mêmes. Et lui, Samuel, eh bien, il a cette charge de il le fait pour les autres. Il comble d'une certaine manière l'espace entre le réel et l'imaginaire. Et son père, qui lui était un juif d'Europe centrale, émigré, qui vendait des vêtements, il appelait ça du rapiéçage de vie. Et Samuel, à chaque fois qu'il évoque son travail, eh bien, il l'évoque en termes de couture. Il parle de retouches, il parle de fil, de retrouver le fil, etc. Donc, il a toujours il fait toujours inconsciemment peut-être référence au domaine du vêtement pour parler. Comme si ces autobiographies étaient des vêtements dans lesquels il allait envelopper les gens.
Gérald Tenenbaum, ce qui est assez étonnant, c'est que Samuel reconstruit le passé, écrivez-vous, accompagné de ce sentiment diffus, retenu, tel une larme d'occulter, au fond, qui vient occulter l'essentiel. Alors, qui vient occulter l'essentiel, c'est ça que je voudrais essayer de voir. C'est-à-dire que, Samuel a conscience qu'en écrivant ses biographies imaginées, il passe à côté de quelque chose d'important.
Oui, disons qu'il occulte le réel, mais en même temps, il pétrit l'imaginaire à partir du réel. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une réflexion sur la création littéraire.
Tout ce livre est consacré à la création littéraire.
Oui, tout à fait. Oui. Ça parcourt le livre et c'est une sorte de plaidoyer pour la fiction qui colle, qui est nourrie par le réel, mais qui ne colle pas au réel. C'est la question du vrai et de l'authentique, et je dirais que c'est un livre où rien n'est vrai, mais tout est authentique.
Alors justement, il a été journaliste à l'Éveil, le mensuel de la gendarmerie nationale.
Oui, tout à fait.
Et en même temps, vous décrivez une démarche qu'il a faite, on s'imagine que ça a été votre première démarche comme écrivain auprès d'un éditeur, avec la manière dont l'éditeur le reçoit plus ou moins bien.
Oui.
En lui disant « Ouais, c'est pas mal, mais enfin, il n'y a pas l'enthousiasme de toute l'équipe, etc.
Oui, »
En mettant à distance, au fond, le livre qui est proposé. Et on a l'impression comme ça que Samuel a vécu à la fois comme journaliste et comme écrivain une expérience qui vous permet... au fond, peut-être de tisser sa biographie du point de vue de la création littéraire, comme lui tisse les
Exactement.
Biographies de ses victimes.
Alors, c'est sûr que ce livre
clients,
est...
De ses clients,
oui, bien sûr, ce livre est une mise en abîme, en fait. Je veux dire, puisque moi, en tant qu'écrivain, je raconte l'histoire d'un écrivain qui lui-même raconte des biographies imaginaires de ses clients. Donc, il y a plusieurs strates.
Alors, ce qu'on découvre dans la boîte en carton dont Samuel a hérité, c'est au fond une piste qui va être la piste suivie par l'ensemble du livre. c'est un numéro de téléphone
oui.
qui va conduire à une femme qui donc est à Troyes, comme je le disais tout à l'heure, et au fond sur lequel, sur laquelle le père, avant de mourir, au fond. Voulait guider son fils.
Oui, tout à fait.
Voilà une femme qui veut être ta cliente. Mm-hmm. Mais en fait, on va découvrir que, bien évidemment, les deux biographies vont ainsi se rapprocher.
Oui.
Et que le travail que vous faites sur la biographie de Samuel, petit à petit, vous amène à évoquer la biographie de cette femme qui a des rapports complexes, on va les voir, avec le père de Samuel.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait, au départ, il suit l'injonction paternelle puisqu'il retrouve ce mot pour Samuel quand le temps sera venu avec un numéro de téléphone. Et donc là, un jour il se décide à appeler. C'est la dernière recommandation de son père. Il se décide à appeler et donc il va faire une enquête sur la vie de cette personne pour façonner son autobiographie imaginaire. Et au fur et à mesure de l'enquête, les éléments vont converger avec sa propre biographie, avec sa propre vie. Et donc là, les choses, d'une certaine manière, basculent pour lui et les deux vies vont se mêler.
Alors, Gérald Tenenbaum, vous avez deux expressions qui sont vraiment très belles. D'abord, une expression qui est « Peut-on porter le deuil de Baruch comme on porte le parfum ?» Un peu comme si il y avait quelque chose dans le deuil du père qui imprégnait totalement la vie de Samuel, qui devait imprégner sa vie comme un parfum. Mm-hmm. Et en même temps, vous dites « Lorsque la famille rétrécit, chaque membre devient plus précieux. » Je trouve ça magnifique, parce que la question qui se pose, c'est au fond l'attachement de plus en plus proche de Samuel à son frère et à sa sœur, parce que finalement il va se rapprocher aussi de son frère et de sa sœur,
oui.
et en même temps il va se rapprocher de cette dame, donc il est beaucoup plus proche qu'il n'imagine.
Bien sûr, oui. Alors c'est vrai que la question du parfum, c'est le parfum qu'on le porte sur la peau, et c'est vrai lorsqu'il sent sa sœur s'approcher de lui et qu'il reconnaît le parfum qu'elle porte, qui entre parenthèses s'appelle l'orpheline, il se dit est-ce qu'on peut porter le deuil comme on porte un parfum, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le porter sur la peau, et lui au fond on a l'impression qu'il le porte plutôt dans la peau.
Alors, il faut venir maintenant à la nouvelle cliente qu'a Samuel, parce que c'est ça qui est quand même, au fond, presque comme un polar, qui se déroule comme un polar. Elle est donc à Troyes, près du centre Rachi, et c'est le père qui l'avait conduit à ça. En fait, on se rend compte que cette femme qui voulait un poste, qui veut un poste au Yivo à New York, veut en même temps, au fond, à partir de sa biographie, qu'on parle du kibbutz, dans lequel il semble, elle veut faire croire qu'elle a été
au kibbutz.
D'autre part, un service militaire au Golan, parce que c'est pas mal pour une institution juive.
Bien sûr,
de dire qu'on a fait du service militaire au Golan. Une formation complète à Vilnius, pour dire qu'on est quand même enraciné dans l'Europe de l'Est. Et en fait, cette femme, pour l'instant, il va découvrir qu'elle s'appelle Luce Alpern.
Oui, tout à fait.
Et en fait, il a rendez-vous avec elle, il va aller à ce rendez-vous, et elle n'est pas là.
Non.
Elle n'est pas là, elle laisse juste un message en disant « Pour me rencontrer, il faut que vous veniez au théâtre voir le D-Book ». Alors peut-être il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que le D-Book, qui se joue, le D-Book, pièce de Hanski, qui se joue à Troyes, et auquel cette femme va assister.
Voilà, alors le D-Book, c'est une pièce de théâtre qui a eu une destinée absolument extraordinaire. Le D-Book, dans la mythologie juive, c'est un fantôme. C'est un fantôme qui est... Enfin, le mot D-Book vient d'un mot hébreu qui veut dire attachement. Et ce fantôme va s'attacher à une personne, à une âme d'une personne vivante, pour ne plus vouloir en sortir. Donc, dans la pièce d'Hanski, eh bien c'est deux personnes, deux hommes dont les femmes étaient enceintes en même temps, et ils se sont promis, si l'un avait un fils et l'autre une fille, de les marier. mais il se trouve que bon, la vie les a complètement séparés et que cette promesse n'a pas été tenue. Et la morale de l'histoire du D-Book, c'est parce que le D-Book apparaît quand il y a une mauvaise action. Et c'est la mauvaise action ici, c'est d'avoir promis sur ce qui n'existait pas encore. On ne doit pas promettre sur ce qui n'existait pas encore. Alors le D-Book a été écrit d'abord en russe, ensuite a été traduit en yiddish, a été représenté, a eu une pièce qui a eu un succès extraordinaire. Et ensuite, ça a été repris, ça a fait l'objet d'un film par Michal Vachinsky, qui a, alors, bon, je parlerai tout à l'heure de Michal Vachinsky, parce qu'il a eu une destinée absolument ahurissante, et ce film est considéré comme un des sommets du cinéma yiddish. Le film tourné en yiddish en 1937, donc dernier arrêt avant la catastrophe. Et il se trouve que le D-Book possède un double dans la mythologie qui s'appelle le Libur. Et Libur est une sorte de double positif du D-Book. Le D-Book étant un fantôme négatif, je veux dire, qui surgit après une faute, Libur, lui, est une imprégnation temporaire, qui peut même se faire avec la connaissance de l'âme qui est imprégnée et qui est là juste pour terminer une action qui a été entreprise du vivant. Et donc, les deux sont... Alors, Libur est beaucoup moins connu que le D-Book, mais c'est une figure très intéressante de la mythologie. Et le thème de Libur, qui dérive à partir du D-Book dans ce livre, est finalement une sorte de tentative pour Samuel de réhabiliter son père avec qui il avait des relations difficiles.
C'est là où on va voir que la problématique du double est très présente dans ce livre. Toujours, petit à petit, oui. Elle s'introduit. Alors d'abord, comment est-ce que Samuel va rencontrer cette femme qui est finalement, qui lui a donné rendez-vous et qu'il n'a toujours pas vu. Mmh. Il se trouve que c'est, il y a une actrice qui joue dans le D-Book et qui s'appelle Léa. Oui. Et cette Léa qui joue dans le D-Book, eh bien, c'est en même temps Luce, la femme qui lui a donné rendez-vous. Tout Donc déjà, fait. Il y a une problématique de double. Ensuite, on va découvrir que dans la famille qui a tourné autour de
la famille de Baruch.
De la famille de Baruch. Oui. Il y a deux femmes qui portent le même nom et qui ont été très, très, très... Le même prénom, pardon. Été très, très amies.
Oui, qui ont été très proches. Et donc, comme elles s'appelaient toutes les deux Lina, finalement, pour les différencier...
Il
y en a une qu'on appelait Linélé et l'autre qu'on a appelée Lina. Et il se trouve que Lina est la mère de Luce.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que tout ça évoque, pour le kibbutz, il pense à Ein HaOresh, ce kibbutz Ein HaOresh, qui est un kibbutz sioniste-socialiste, il va essayer de faire entrer ce kibbutz dans la biographie de Luce, biographie inventée.
Oui.
Pourquoi il prend ce kibbutz? Parce que son frère a été, lui, dans sa jeunesse, dans ce kibbutz, où il a fait un boulot de garde d'enfants, enfin d'animateur.
Il a été animateur d'un mouvement de jeunesse,
c'est ça. Dans ce kibbutz.
Du chômeur.
Et alors, on va découvrir que ce kibbutz a effectivement, dans la réalité, un rapport avec Luce. Alors que lui, au départ, il ne pensait pas du tout qu'il y aurait un rapport avec Luce, puisque c'est une biographie inventée.
Oui, mais la mère de Luce a fait justement un séjour au kibbutz. Et il se trouve que ce kibbutz a été la résidence d'un poète, Abba Kovner, qui a une importance, qui est un des grands poètes.
On est tous Abba Kovner. Seulement un grand poète, c'est aussi un grand résistant.
Un grand
quelqu'un
résistant.
Quelqu'un qui a joué un rôle extraordinaire en Europe de l'Est pour finalement se battre contre les nazis, qui est arrivé à partir en Israël après avoir joué un rôle très très important.
Il a été le créateur du mouvement Bricha la fuite, donc pour permettre après le génocide aux Juifs d'Europe de l'Est d'émigrer en Israël. Et puis il avait fait ce projet de vengeance, Nakam, qui consistait à empoisonner les conduites d'eau des grandes villes allemandes. Et il a, on a des images de lui parce qu'il a témoigné.
Il avait pensé pouvoir empoisonner à la fin de la guerre tous les Allemands d'une ville.
Oui, exactement.
Et comme il est juif, il s'est arrêté au dernier moment. Il s'est arrêté au dernier moment, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu aller jusqu'à empoisonner.
Je crois qu'il a pas pu le faire,
il avait. Il y a deux thèses, pas voulu le faire.
En tout cas, c'est vrai qu'il s'est arrêté. Et puis on a des images de lui parce qu'il a témoigné au procès Eichmann, et c'est vrai qu'il a un visage absolument extraordinaire, et il a écrit plusieurs recueils de poésie. C'est vraiment le poète de l'absence, et je dirais que c'est le père des orphelins, et Luce et Samuel finalement se retrouvent tous les deux orphelins.
Alors il faut dire que il y a toute une série de villes, toute une série de voyages que Luce va donc faire en voiture, d'abord en France, puis ensuite à Gênes. Et à Gênes, ils vont rejoindre un bateau, et ils vont partir en bateau pour Israël, pour aller vers ce kibbutz, essayer de chercher la vérité. Oui. Au fond, à la fois d'inventer quelque chose de faux, et en même temps de chercher la vérité de l'histoire de Luce.
C'est toujours l'histoire de pétrir le faux et la fiction à partir du réel. C'est le réel sert de matériau de construction à la fiction.
On peut dire que votre objectif, c'est petit à petit d'incarner la création littéraire, dans une réalité qui est de plus en plus prégnante. Oui. Un peu comme si petit à petit, vous montriez que la vraie réalité, c'est peut-être pas ce qu'on croit, mais c'est finalement la fiction qui devient la réalité.
Oui, c'est le réel sous le réel, je dirais. Oui, c'est vrai que... Alors, ils ont ce périple, ce voyage initiatique, finalement, depuis la Lorraine, qui a été le lieu de la nidation des juifs polonais, des parents, et puis ensuite vers le sud, toujours vers
Dijon, voilà. Grenoble, Marseille...
Gênes,
et puis ensuite le bateau.
Et donc,
dans chacun de ces cas, il y a un personnage qui vient et qui va apporter quelque chose de plus à l'histoire et donner au fond un rapport entre la fiction et la réalité. Et quand vous parlez de la fonction de Samuel, vous dites une bonne affaire que tu as inventée en vérité, un bon business, pas de concurrence, tu peux faire tes prix. Mon père vendait des bijoux pour envelopper la lumière, le tien des vêtements pour envelopper le corps, toi tu composes des vies pour envelopper les âmes. Confection pour homme, confection pour femme, je dis chapeau. Vous arrivez à la fois à faire le lien entre, au fond, toutes les traditions du judaïsme, et puis quelque chose qui est...
Ce métier complètement inventé, imaginé, et complètement ahurissant, qui s'est inventé lui-même.
Alors, je disais que dans chacun de ces endroits, on a une situation très étonnante, puisqu'on trouve un témoin, quelqu'un qui apporte quelque chose à l'histoire.
Oui, c'est vrai.
Il y a par exemple, près de Marseille, cet homme qui taille des marches dans les rochers. Et c'est assez intéressant parce que progressivement, chacun de ces personnages va... converger pour constituer l'histoire et donner des éléments de plus sur l'histoire de Luce et aussi l'histoire de Samuel.
Luce
et Samuel vont avoir une histoire amoureuse et on va découvrir qu'en fait Luce était sans doute la fille, en tout cas d'une mère qui a frayé peut-être avec le père de Samuel.
Oui.
Alors on se dit, mais c'est pas possible, alors ils sont frères et sœurs.
Est-ce qu'ils sont frères et sœurs?
Ils sont amoureux. On se pose la question, évidemment.
Et Samuel lui-même se pose la question. Et il y a cette scène où un jour il regarde Luce dormir. Et puis il se pose la question, il se dit, cette ligne de sourcil, est-ce que ça me rappelle quelque chose? Est-ce que ce visage, est-ce que c'est pas, est-ce qu'elle ressemble pas à Baruch? Est-ce qu'elle ressemble pas à ma sœur, etc.? Et puis la lumière rentre dans la pièce et il se dit « qu'importe ».
Alors justement, c'est ça qui est, à mon avis, extrêmement intéressant. C'est la richesse, je dirais, petit à petit, du personnage qui s'étale devant le lecteur et qui se dit, au fond, je ne sais pas tout et je ne saurai jamais tout sur ce qui lie ces deux personnages. Mmh. Et ils vont découvrir, au fond, la clé de ce qui les lie, d'une certaine façon,
oui.
En Israël.
Oui.
Un peu comme si Israël leur donnait une solution, parce qu'ils vont rencontrer un personnage dans un kibboutz, on ne va pas raconter ça,
oui.
Faut aller jusqu'à la fin.
Oui, bien sûr.
Ils vont rencontrer un personnage dans un kibboutz qui va leur donner la clé de ce qui les rapproche et de ce qui est, au fond, leur histoire commune.
Oui, c'est ça, ils arrivent, donc le voyage va toujours vers le sud, et le sud, finalement, c'est le soleil, c'est la lumière, et la lumière va se faire en Israël, et finalement, le voyage initiatique est un voyage qui dure un an, comme un deuil dure un an, et qui est un voyage circulaire, puisque bon, on part de la Lorraine, on revient à la Lorraine, mais les choses vont finalement s'apaiser après un an.
Merci Gérald Tenenbaum. Alors, je voudrais inciter tous nos lecteurs à lire ce livre, parce qu'il est riche de tellement d'allusions, de tellement d'éléments culturels différents. On n'en a pas dit le centième. Que je crois qu'on prend un grand plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à lire ce livre.
Merci.
C'est chez Cohen et Cohen, donc, et ça s'appelle « Par la racine », et c'est dû à Gérald Tenenbaum. La semaine prochaine, c'est Sylvie Adler qui recevra Sarah Holling pour son livre « Au nom des oiseaux » aux éditions du Donjon.